Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama aujourd'hui avec trois interviews, deux acteurs, un réalisateur. Les deux acteurs, c'est Samy Bouajila et Pierre Ninet. Et puis le réalisateur, ce sera Farid Bentoumi. Bonjour Marine.
Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, donc moi je vais vous parler de Five, la nouvelle comédie avec Pierre Ninet que j'ai interviewé à cette occasion. Et je vous parlerai également de Médecins de campagne avec François Cluzet.
Et puis toi Manu, deux films aussi.
Batman versus Superman, le gros blockbuster de la semaine, et puis une petite bluette gentille, Rosalie Bloom.
Et puis moi, je parlerai de Good Luck Algeria, puisque on aura l'acteur et le réalisateur en interview. Je vous parlerai aussi du Sanctuaire qui sort le 30 mars, et puis aussi du film Le Cœur Régulier qui sort également le 30 mars. C'est Cinérama, on commence avec le gros blockbuster.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Ça s'en passera aisément.
Alors cela peut prêter à sourire, mais ce n'est pas la première ni la dernière fois que le cinéma s'amuse à confronter des icônes de la culture populaire dans un même film. Citons de mémoire un Dracula contre Frankenstein, Frankenstein contre le loup-garou, King Kong contre Godzilla ou encore Freddy versus Jason. Alors pour ne pas parler d'un Jesse James contre Frankenstein ou d'un homme invisible contre la mouche humaine. Non, c'est véridique, je n'invente pas. Alors, tout un programme pour des œuvres d'exploitation qui ne se prennent pas au sérieux. Même la firme Marvel traite généralement avec légèreté les rencontres entre super-héros, acceptant le côté purement mercantile de l'opération, afin de dérouler à l'infini des franchises qui commencent à sentir le réchauffer malgré tout. Alors, ce qui n'est évidemment pas le cas de Batman versus Superman, qui tente de se démarquer de cette légèreté, dans l'espoir de creuser un sillon au sein des DC Comics dans la lignée des Batman de Christopher Nolan. Les ambitions narratives et visuelles affichées par Zack Snyder sont escamotées au bout de 20 minutes par un pitch initial qui frise l'indigence totale. La première erreur de cette modeste production de 450-500 millions de dollars est de faire de Batman un imbécile doublé d'un gros facho qui marque ses victimes au fer rouge, laissant son empreinte indélébile sur leur corps comme le faisait jadis Zorro avec plus de grâce et de finesse. En gros, pour résumer, Batman s'inquiète que Superman n'abuse de ses pouvoirs illimités. Il pense, enfin, il essaie que l'Amérique a juste besoin d'un justicier et non d'un type en collant qui vient d'une autre planète et qui pourrait utiliser ses pouvoirs à des fins néfastes. Mais ce que ne savent pas nos deux zigotos, c'est qu'ils sont tous deux manipulés par Lex Luthor, une sorte de geek psychopathe et assurément l'un des méchants les moins crédibles de l'histoire du cinéma. On ne comprend pas très bien d'ailleurs quelles sont ses intentions, à part de détruire Batman et Superman en les montant l'un contre l'autre comme des gamins dans une cour de récré.
Les gens vivent dans la peur. Cet homme se croit au-dessus des lois.
De la part du Daily Planet, critiquer ceux qui se croient au-dessus des lois, c'est un peu hypocrite.
Non ?
Vu que chaque fois que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous sortez un édito ronflant sur un extraterrestre capable de tout mettre à feu et à sang.
Peu de gens partagent votre opinion, Monsieur Wayne.
Ça doit être mon côté Gotham. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns.
Les gars ! Bruce Wayne face à Clark Kent. J'adore ça. J'adore susciter les rencontres. Comment allons-nous ?
Lex.
Bonjour, bonsoir. Lex, enchanté de faire... Ah ! Waouh ! Quelle poigne ! À mon avis, on n'a pas intérêt à se frotter à lui.
On pouvait espérer une réflexion sur le bien et le mal, l'autojustice, les limites interventionnistes de personnages parfois dérangés, surtout dans le cas de Batman, d'autant que Snyder n'est pas le cinéaste le plus nul de la Terre. Il avait même réussi l'adaptation des Watchmen du génial Alan Moore. Le style visuel éreintant et tapageur de Snyder vire malgré tout à la prétention et ne parvient jamais à sublimer un script au ras des pâquerettes. On reste parfois estomaqué par les raccourcis dignes d'un dessin animé pour des gosses de 5 ans. Lorsque vers la fin notamment, Batman et Superman se réconcilient, faux spoiler, car personne n'est dupe, la raison du changement d'attitude de l'un envers l'autre vient du fait que leurs mamans respectives ont, tenez-vous bien, le même prénom, Martha. Alors, quelle pirouette scénaristique. Certains personnages aussi ne sont présents qu'en tant que placement de produit, ce qui est apparemment le cas de Wonder Woman, qui traverse l'écran pour faire un petit coucou et prévenir les fans qu'elle risque de devenir l'héroïne d'une adaptation à part entière. Alors, cette insistance de placer de nouveaux super-héros est vraiment grotesque. Batman versus Superman est vraiment un spectacle vide, parfois spectaculaire, agrémenté malgré tout de scènes d'action bien réglées, d'effets spéciaux remarquables, mais c'est un peu le minimum syndical. On est en droit d'attendre autre chose que ce type de grosse baudruche interminable, idéologiquement douteuse et d'une bêtise sans fond. Alors pour enfoncer le clou, la musique est absolument insupportable et pauvres interprètes, ils sont peu aidés par leurs personnages, ils sont pas très très crédibles.
Voilà, et bien nous passons de ce blockbuster à un film de potes qui va sortir ce 30 mars, c'est la première interview de ce cinérama.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et on passe donc à Five de Igor Gottesman. Alors dans Five, nous suivons les aventures d'un groupe de potes de longue date qui réalisent un jour leur rêve en prenant un appart en coloc dans Paris. Mais les problèmes d'argent vont les amener à glisser vers le trafic de drogue et donc vers les soucis, car la drogue, c'est mal. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Five réussit son boulot de film de potes, à savoir rendre immédiatement attachant des personnages en 2-3 traits de caractère et à rendre crédible leur groupe. Dommage eh bien, que l'intrigue tienne surtout sur les épaules du binôme central et surtout sur les épaules de Pierre Niney. Néanmoins, on se doute qu'il n'était pas simple d'harmoniser le jeu des différents comédiens, sachant quand même que l'un sortait de la Comédie Française, tandis que d'autres apparaissaient pour la première fois à l'écran. Alors, on apprécie aussi le côté jusqu'au boutiste de la comédie, à savoir des gars qui osent vraiment aller loin dans le scato, entre autres, parce que ça marche vraiment bien. Le résultat de tout ça, eh bien, c'est une ode un peu lourdingue à l'amitié, pleine de maladresse, de bons sentiments, mais qui est quand même entrecoupée de passages très drôles, et à la mise en scène, c'est vrai, pas vraiment transcendante, mais pour une comédie, on s'en accommode largement. Et on va donc maintenant écouter Pierre Niney qui nous parle de ce film.
Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble.
Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste.
Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine...
Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales.
Oh, les, la vache.
Son père continue de lui donner de l'oseille.
Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études.
Tu recevras plus un centime de ma part.
Quand on n'a plus de famille, il reste les amis.
Faire une comédie, c'est toujours très compliqué. C'est du rythme, c'est de la musique, c'est très dur à faire. Parfois, c'est un petit peu trop déprécié en France. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur de vouloir réussir une comédie ambitieuse. Là, je trouve que c'est une comédie élégante qui n'oublie pas que c'est un film de cinéma, même si c'est une comédie. Et puis, c'est un regard très vrai sur ce que peut être un groupe de jeunes gens qui s'aiment, qui rêvent ensemble, qui ont envie de vivre ensemble aujourd'hui en France. Donc, en même temps, on avait l'ambition de faire un truc bien. Et quand tu as l'ambition de faire un truc bien, tu as peur, tu doutes, tu travailles beaucoup avant. Donc, c'est une partie de plaisir, évidemment, parce que c'est avec des potes et que ça parle de l'amitié. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu les plus grands fous rires de ma vie sur le film, ce serait vous mentir. Mais en même temps, voilà, il y a des jours où on galère et on travaille et on se dit est-ce que c'est assez bien, et là on le présente, donc on a les chocottes tous les soirs.
Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? Plus c'est ultra ambigu là, t'es en Micaera des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut.
Bah ouais, bah j'ai hésité entre les deux.
Ouais.
Du coup, j'ai combiné, mais c'est pas grave.
Non, bah viens maintenant.
Dans Five, du coup, ton personnage, en fait, ment à sa famille, il se fait passer pour un médecin, il ment ensuite à ses amis. C'est la troisième fois, quand même, dans ta filmographie, que tu joues quelqu'un qui se fait passer pour un autre. C'était déjà le cas dans J'aime regarder les filles, et c'était également, du coup, le cas dans Un homme idéal. C'est un truc qui travaille, non, cette figure du faux-semblant, finalement, oui, voilà, usurpateur.
Ouais, je trouve ça fascinant, je sais pas, c'est peut-être depuis que j'ai vu le talentueux Monsieur Ripley, j'avais trouvé que le mensonge avait quelque chose de tellement cinégénique, de tellement fort. Que peut-être que c'est quelque chose qui ne me lâche pas, et puis je trouve ça toujours intéressant de dire au spectateur quelque chose qu'en vrai tu ne fais pas, ou de faire quelque chose que tu ne dis pas aux autres personnages du film. Je trouve qu'il y a toujours un double jeu assez excitant là-dedans.
En fait, bravo pour ce soir, c'était vraiment bien ta scène.
Ça t'a plu?
Ouais.
Ok.
Ça serait bien qu'on la travaille ensemble.
Ensemble, tous les deux? Yes, enfin oui, je veux bien, ouais, carrément, grave.
Toi et moi.
Eh bah ouais, carrément, toi et moi. Super, écoute, j'ai ton numéro, t'as qu'à m'appeler, boum, on s'organise ça, on sait ça.
Ah bah non, si t'as mon numéro, tu m'appelles toi, c'est plus simple.
Oui, mais non, encore mieux, beaucoup plus malin, oui, bien sûr, l'évidence. Du coup, je t'appelle et puis voilà, tu décroches, tu me dis oui ou non, ou tu décroches, ou d'ailleurs tu décroches pas, ça c'est comme tu sens, je veux pas trop me m'immiscer dans le... Tu vas décrocher, tu vas décrocher. Je plaisante, c'est pas la meilleure vanne, mais chacun est libre. Du coup, moi, Fayley aussi.
Ok.
Bon.
Salut.
Non, ouais, toi. je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pose, posez. Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter.
Ouais, ouais. Ok, carrément, okay, d'accord. Cool. Ok, je viens, c'est hyper sympa.
C'est toujours des bonnes sensations, scooter, ça te permet... J'ai pas de casque, putain.
Ah. Et... c'est pas grave. Je vais...
À bah, pied, du coup, je rentre à pied. Du coup, ouais. Ça me... Ouais.
Salut.
Ouais.
Five, c'est ton 13e film, je crois, si je me trompe pas. Donc, tes premiers films, t'avais environ 20 ans, on va dire. Ça fait quoi de grandir sur grand écran devant des millions de gens, finalement?
Bah, moi, je le vois comme une chance. Je me dis qu'un jour, quand je serai vieux, j'aurai une DVD tech avec la tête que j'avais à 19, à 22, à 24. Et je trouve ça assez fabuleux de me dire que voilà, ça imprime la pellicule. Et quelque part, effectivement, j'ai un espèce d'album à moi où je me vois vieillir, je me vois grandir. Ouais. Non, mais ouais, non, c'est pas mal. Non, c'est pour ça que je dis que je vois ça comme une chance. Non, mais au-delà de ça, je trouve que j'ai un attachement à chaque film que je fais. Ça marque une période de ma vie, celui-là encore plus, Five, parce que c'est avec des gars avec qui je suis pote depuis 5-6 ans et à qui j'ai un attachement très fort, François Civil, Igor Gottesman. Donc c'est encore plus fort peut-être celui-là, que je crois que c'est vraiment celui où je peux être ému en le regardant dans 10 ans, en me disant j'ai fait ça, quoi.
Oh là là, mec, elle est tellement belle. Je t'ai pas raconté, toi. L'autre jour, je passe chez elle, on fume un bédo classique. Je lui dis, vas-y, Julia, fais-moi une petite soufflette parce que tu sais, je kiffe. Et là, mec, quand elle se penche vers moi pour la faire, je suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Tu veux que je te dise? J'étais comme ça, mec. Braguette, une braguette tendax, tu sens que ça peut péter à tout moment, ça. J'avais le haut du jean cabossé. J'étais mal, hein. J'avais, bah, tu sais, les mimoles, là, les mimolettes, comme on dit.
Attends, mais mec, t'es sérieux, là, Julia, c'est comme notre sœur.
Je sais, mec, mais c'était sincère. C'est une goal sincère, quoi, en fait.
Adèle Exarchopoulos se disait qu'elle avait l'impression parfois d'être une imposture. Est-ce que c'est une impression qui te traverse, toi, parfois?
Bah, bizarrement, c'est vrai que j'ai fait des films sur l'imposture un petit peu. Je pense surtout à Un homme idéal. Mais je crois pas que j'ai ce sentiment comme... Il y a beaucoup d'acteurs qui te parlent de ça, beaucoup d'artistes, en fait, qui te parlent de ça. Moi, je pense que je peux me dire que je suis pas à la hauteur, parfois. Et c'est un doute que tu peux avoir souvent dans une vie d'artiste, je crois. Par contre, j'ai pas vraiment cette impression d'imposture constante comme certains acteurs en parlent. Je crois que j'ai pas exactement le même symptôme. Je suis un freak et j'en ai d'autres, mais pas ça. Je pense aussi parce que... Peut-être que c'est parce que moi, les choses sont faites très progressivement. J'ai eu beaucoup de petits rôles avant d'avoir des rôles principaux. On parlait, j'ai souvent fait un rôle secondaire à côté de Grégoire Le Prince Ringuet ou au théâtre. J'ai fait beaucoup de petits rôles, même à la Comédie Française, avant qu'on me confie un rôle principal. Donc j'ai eu le temps de désirer ça. J'ai eu le temps de le vouloir vraiment. J'ai eu le temps de réaliser ce qu'était cette industrie, ce qu'était un plateau de théâtre. Donc voilà, je pense que quand ça va très vite pour toi, d'un coup, il peut y avoir un côté un peu waouh, pourquoi moi? Est-ce que ça doit vraiment être moi? Est-ce que ça doit pas être quelqu'un d'autre? Et ça, j'ai eu la chance de passer un petit peu à côté.
Les addictions ramenaient pas l'argent, ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement dans une cave.
En 69, t'imagines un peu le putain.
C'est-à-dire?
Ben, comme ça quoi, j'imagine, hein, qu'ils nous mettraient un peu en tête bêche en fait, pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles en fait. Donc...
Putain, mais c'est toi qui as les clés, hey. Tu fous de ma gueule, arrête avec tes couilles de tête bêche là.
Mais nous on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité en fait. Allez, on file. Turn down for what?
Voilà, un film avec des couilles et des têtes bêches. Non, mais voilà, du coup, c'est Five. Non, mais je le conseille quand même parce qu'on passe un très bon moment. Et puis, dans la Comédie Française, un film de potes avec des jeunes, c'est très rare. Souvent, c'est plus des quadras, voire quinquas, etc. Et donc, ce qui rend le truc un peu plus poussif. Là, voilà, c'est plutôt drôle. Et donc, ça sort le 30 mars. Le 30 mars. Merci, Vincent.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Ça va aller.
C'est la sortie frousse de la semaine, Le Sanctuaire ou de Halo en anglais, un film fabriqué à l'ancienne, c'est-à-dire sans effets spéciaux numériques. Alors on suit un couple et un enfant qui viennent de Londres pour s'installer en Irlande. Adam doit y inspecter des arbres d'une forêt qui n'a pas bougé depuis des siècles. Alors il s'installe dans une maison en bordure de cette forêt, non sans avoir des interventions lourdaudes du voisin qui mettent en garde le couple contre les créatures de la forêt qui en veulent à leur fils. L'arrogance londonienne contre les ploucs d'Irlande, voilà ce qui se joue au début, et puis, eh bien, après, ça se gâte. Alors, disons-le nettement, Le Sanctuaire ne brille pas par un scénario étonnant. Un couple, l'innocence de l'enfant, des créatures qui veulent l'enlever, voilà tout. Mais dans son exécution, Le Sanctuaire fait plaisir à voir. D'abord, avec son montage permettant de jouer à fond la carte de la surprise, propre au film de Frousse. Une forme dopée par une partition sonore assez élégante. Mais ce qui stimule aussi dans ce film, ce sont les créatures, s'inspirant de légendes irlandaises. irlandaise, on ausculte une forêt qui déverse une sorte de bile noire sur tout ce qu'elle veut engloutir, du vivant à l'inanimé. Mais attention, il n'y a pas d'effets spéciaux donc numériques, c'est donc l'empire du caoutchouc. On y trouve des marionnettes, des animatroniques, des prothèses et des costumes et du fond vert pour fabriquer l'univers des monstres. Alors c'est non seulement amusant mais plutôt réussi, car pour cacher les effets grossiers, eh bien, il faut se creuser un peu la tête, savoir montrer sans trop éclairer, sous peine de voir apparaître la colle. Alors préférez les plans fugaces ou les plans larges. Et si on cherche des références, eh bien, on pourrait en trouver du côté d'Alien, le 8e passager, Evil Dead et The Thing. Ça, c'est ce que le réalisateur a donné comme référence. Mais on pourra en trouver aussi chez Cronenberg, la mélasse noire des créatures de la forêt qui recouvrent les choses. Donc cette espèce d'amas de plastique fait penser à l'univers de Cronenberg. Et puis on pense aussi à la mouche, car l'un des enjeux du film est la transformation du mari un peu trop proche des créatures de la forêt. Et voilà, il va être mi-homme, mi-créature en quelque sorte. Alors on regrette que cet aspect ne soit pas mieux exploité. Là où chez Cronenberg on taquinait le questionnement métaphysique sur l'homme et l'animal, eh bien ici le réalisateur se conforme au genre et suit la pente horrifique plutôt que métaphysique. Mais Le Sanctuaire, eh bien c'est un film de genre qu'il est plutôt plaisant.
Et c'est plutôt rare aujourd'hui.
Oui, effectivement. Et ça sort le 30 mars.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Être médecin de campagne, comme dit Jean-Pierre Werner, interprété par François Cluzet, ça ne s'apprend pas. Être médecin de campagne, pour lui, est plus qu'une vocation, c'est un sacerdoce. Il se donne corps et âme à son métier depuis des dizaines d'années, jour et nuit et toute la semaine, au point de n'avoir ni amis ni famille. Mais lorsqu'il se découvre une tumeur au cerveau inopérable, il est contraint d'accepter d'être secondé par Nathalie, une ancienne infirmière qui vient tout juste de finir son internat de médecine. D'abord réticent à cette présence et à l'idée de devoir passer le relais s'il vient à décéder, il finit par tomber peu à peu sous son charme et par accepter de la laisser entrer dans son existence solitaire. Alors, médecin de campagne, à première vue, eh bien, c'était surtout une affiche assez hideuse, hein, une distribution assez bancale avec Antoine Marine Denicourt, que l'on connaît surtout à la télé, et un titre qui flore bon le saucisson. Bref, rien qui soit vraiment attrayant. Je reconnais y être allé vraiment, mais en préparant un drame bien conventionnel et bien indigeste qui exalte les valeurs françaises. Eh bien, pas du tout. Dans médecin de campagne, Thomas Lilti, je vais jamais y arriver, Thomas Lilti, réalisateur de Hippocrate, poursuit son exploration du monde médical avec un film plus sombre, plus mélancolique, totalement complémentaire finalement de sa première œuvre. Tout en restant très terre à terre, hein, c'est le cas de le dire, en montrant la précarité de cette campagne française proche de Paris, Lilti dépeint sans fioriture le rôle social du médecin qui part de son travail, établit des liens entre les générations et lutte contre l'isolement des populations rurales. Tour à tour urgentiste, assistante sociale, psy, il doit occuper diverses fonctions tout en étant, et c'est là tout l'enjeu dramatique du film, lui-même malade. Alors l'alchimie du duo principal, hein, qui repose à la fois sur la confrontation et sur l'attirance, est l'une des raisons centrales de la réussite du film. Afin de ne pas réaliser un documentaire sur l'isolement des zones rurales, le réalisateur a eu la bonne idée de tempérer le drame avec de nombreux éléments de comédie. Et puis alors je salue l'effort d'imagination, hein, qu'a dû faire le scénariste pour imaginer dans son rôle une femme d'âge mûr. Parce qu'on aurait dû avoir normalement une petite étudiante qui sortait de ses écoles de médecine. Et là, non, c'est Marianne Denicourt qui s'en sort très bien. Bah, en fait, je vous le donne en mille, c'est une scénariste en fait, c'est une femme. Et non des moindres, puisque c'est Baya Kasmi, la scénariste du Nom des gens, entre autres, qui a écrit donc ce médecin de campagne avec le réalisateur Thomas Lilti. Et voilà, et donc en fait c'était inattendu, mais c'est une réussite, ni trop dramatique, ni trop comique, ça trouve vraiment le juste équilibre, et c'est une totale réussite, et très bien interprété par François Cluzet.
Et puis ça suivra donc Hippocrate, qui là parlait de l'internat,
voilà.
en médecine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
C'est la deuxième partie de cette émission avec la deuxième interview. Alors, on va parler de Good Luck Algeria. Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, fabriquent avec succès des skis haut de gamme jusqu'au jour où leur entreprise est menacée. Alors, parce qu'un champion suédois qui devait porter leur ski, eh bien, jette l'éponge. Pour sauver leur entreprise, ils se lancent dans un pari, qualifié Sam aux Jeux Olympiques pour le compte de l'Algérie, le pays de son père. Alors, dit comme ça, on pourrait penser que ce n'est que pure fiction, mais non, le réalisateur Farid Bentoumi s'est inspiré de l'histoire de son frère.
C'est un hyperactif et du coup, il a décidé en 2006 de participer aux Jeux Olympiques de Turin. Il voulait s'améliorer en ski, il avait un entraîneur de ski à Grenoble qui lui a dit « Mais je ne peux pas t'entraîner la semaine prochaine parce que j'entraîne un Népalais pour les Jeux Olympiques ». Il lui a dit « Mais toi, tu es Algérien, tu pourrais très bien te qualifier pour l'Algérie pour les Jeux Olympiques ». Et en fait, à l'époque, il y avait une règle qui disait que c'était vraiment l'esprit olympique, hein, que chaque pays pouvait qualifier un homme et une femme. Et du coup, il s'est lancé là-dedans. Il y a une fille de Grenoble qui a vu dans le journal qui se lançait là-dedans, donc qui s'est dit « Mais moi aussi, je suis algérien, je pourrais tout à fait le faire ». Et du coup, ils se sont retrouvés à deux, un homme et une femme, à participer aux Jeux Olympiques en 2006 à Turin. Ouais.
Alors Farid Bentoumi se sert donc de cette histoire de défi sportif pour en raconter une autre, hein, celle d'un Français avec un nom à consonance maghrébine qui doit se réapproprier eh bien, ses racines. Prix du public du Festival Cinémètre de Montpellier, eh bien, Good Luck Algeria est une comédie sociale plutôt subtile, douce, servie par de bons comédiens. On va écouter Farid Bentoumi.
José, c'est mon fils, c'est lui qui fait les skis pour le Suédois.
Alors, le Finlandais?
Un Suédois, chérie.
Bon, enfin, c'est signé ou pas?
Ouais.
Mais c'est génial.
Bonjour tout le monde.
Faut que je te vois là. Johansson, les JO, il les fait pas.
Il s'est blessé?
Non, nous on les fait pas avec lui.
Je suis en faillite, la boîte est en train de couler.
Je cherchais avec mon producteur Frédéric Jouve des films Velvet. On cherchait depuis longtemps comment exprimer une voix différente sur l'immigration, c'est-à-dire cette voix des binationaux qu'on entend très peu en fait. Et qui, je pense, peut être un espèce d'antidote au poison actuel qui rentre dans notre société et qui rentre dans tous les médias, qui veut que on choisisse absolument son pays, que Marine Le Pen veut absolument qu'on puisse pas avoir la double nationalité, ce qui est une aberration totale. On choisit pas d'avoir la double nationalité. Moi, je suis né franco-algérien, c'est à l'intérieur de moi, donc je comprends pas pourquoi j'aurais à choisir l'un ou l'autre. C'est pas parce que je vais choisir d'un seul coup de renoncer à ma nationalité algérienne que je serai plus français ou mieux français. Donc voilà, face à ces aberrations-là et à cette bêtise, parce que c'est vraiment pour moi un discours très simpliste et très bête, et c'est toujours plus facile d'avoir un discours simpliste. La réflexion, c'est toujours plus compliqué. J'ai essayé de faire un film justement qui propose un antidote à ça et qui dise le mélange des cultures, c'est quelque chose de riche et c'est quelque chose de simple en fait.
Ça, c'est une Brésilienne qui vit en Suède. Au départ, elle devait faire les Jeux Olympiques pour la Suède et puis finalement, elle s'est fait virer. Du coup, elle a décidé de faire les Jeux Olympiques pour son autre pays, le Brésil. Et tu comprends pas?
Non.
Ton père, il est algérien?
Ouais.
Donc toi aussi?
Ouais.
Sam, tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie. En ski de fond.
J'ai mis 3 ans à écrire ce film, un peu plus de 3 ans, et j'ai mis longtemps, on a mis 5 mois à le monter. Parce qu'en fait, ce mélange d'énergie entre la comédie, l'émotion, l'enjeu sportif, l'enjeu social, c'est 4 films en même temps, et imbriquer toutes ces intrigues en même temps, et en même temps le parcours du fils, parce que Samy fait un vrai parcours dans le film pour renouer avec ses racines, et le père aussi fait un parcours très important, c'est lui qui fait le parcours majeur du film. Et en effet, c'est important pour moi que l'humour nous amène à avoir une grande empathie pour le héros. J'avais vraiment envie qu'on suive Samy, qu'on soit avec lui du début jusqu'à la fin, et que quand il y a cette espèce d'énorme engueulade avec les oncles à la fin, j'avais envie qu'on soit avec lui, j'avais envie qu'on se dise « mais oui, il a raison, quoi, il a raison de défendre les terrains de son père et en même temps, il a tort. »
C'est ça ton idée?
Ouais.
Ok.
Eh, hey, tu sais quoi, moi si je pouvais, je les ferais les JO.
Ah ouais?
Sauf que moi, j'ai aucune chance de me qualifier. Toi, en revanche, t'es le seul Algérien. Enfin, sur la neige, je veux dire. T'es sûr de te qualifier. Sam.
Ouais.
Puis de toute façon, rappelle-toi où ce qui est, tu cartonnais.
C'était il y a 25 ans, Steph. 25 ans.
Sam, attends. On a tout fait là, tout est prêt.
C'était important pour moi de créer cette entreprise de ski. Je me suis dit qu'est-ce qui pourrait fabriquer ce franco-algérien de quelque chose de 100% français. Et en effet, il fabrique ses skis. Je trouvais ça beau de montrer que cette nouvelle génération d'enfants d'immigrés, c'est même pas une question d'intégration, c'est que lui, il se pose pas la question, c'est ça qui est agaçant tout le temps de devoir poser des questions. Il se pose pas la question, est-ce que je suis bien intégré, est-ce que je suis pas bien intégré, est-ce que je suis français, est-ce que je suis pas français. Il fait des skis, il se dit, des skis 100% français, ça marche bien, parce qu'en ce moment, les gens ont envie de ça et tout, et voilà. Et il fabrique des skis artisanaux qui sont de très bonne qualité. Et...
Il parle même pas arabe.
Ouais, là, mais j'ai besoin d'euro.
Non, tu m'as qu'un. J'ai ma fait sacher. Normal.
Ouais, non, mais alors là, excuse-moi, mais il n'y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski.
Ouais, il a raison.
Pour te qualifier, il faut que tu fasses des courses de Coupe du Monde.
Des courses de Coupe du Monde.
Oui, je te sens fébrile, là.
Avec Steph, on a tout misé dans la boîte, tout. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est juste un petit effort. Jusqu'au JO.
Réveille-toi, Sam, tu fais 1h27. Sors ton délire, là.
Vous allez avoir la tenue officielle de l'équipe nationale.
Peut-être, monsieur, mais moi, j'ai besoin de 20 000 dollars, hein, pas 2 000, 20 000, 20 000.
Avec ta mère, on s'est battu. On a travaillé toute notre vie pour que vous ayez le choix.
On tourne en rond, là.
En même temps, ça, c'est un peu le principe du ski de fond, tu vois. On tourne en rond.
Voilà, c'était Farid Bentoumi, donc le réalisateur de Good Luck Algérien, un film dont il a mis 3 ans à bâtir. Alors, avec Samy Bouajila, qui s'en tire alors très bien dans la comédie, et c'est pas la première fois qu'il joue dans une comédie, il nous explique son rapport avec ce genre.
Je saurais, comment dire, m'exprimer dans un comique de situation, parce que je peux dégager un personnage avec une énergie qui va dans ce sens-là. J'aurais pas, par exemple, le talent que peut avoir Franck avec la réplique qui fait mouche, une intelligence de jeu comme ça, quoi. Donc, mais c'est pas la première fois, je le sais, moi. Déjà, même en école d'art dramatique, dans les comédies, moi, je prenais mon pied, hein, les Labiches et tout ça, c'était super, tous les vaudevilles. Mais il faut trouver les scénarios, vous savez, il faut les recevoir, il faut les trouver. Régulièrement, j'en fais des comédies qui sont, comment dire, plus ou moins réussies. Quand moi, je vais dans ce registre-là, je ne cherche pas à jouer la comédie, encore une fois, c'est une comédie de situation. Moi, je me livre avec autant de sincérité et de générosité que je peux le faire dans d'autres registres ou dans d'autres films. Et c'est au metteur en scène ou à l'auteur, enfin au metteur en scène surtout, de savoir poser son point de vue. Et j'ai découvert le film hier, et moi ce qui me touche, c'est quelque chose d'enfaré à conscience, mais au-delà de ça, c'est dans ses tripes, il parle de quelque chose qui lui est cher, et il en parle avec tellement de subtilité, de sensibilité, de générosité, que c'est là que ça me touche, moi.
Voilà, Good Luck Algeria, c'est un film plutôt vivifiant, hein, autant en documentaire sur la quête des racines qu'un moment de comédie qui vire au feel good movie, et il sort le 30 mars.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Sans être péjoratif, hein, il existe ce qu'on appelle des bluettes sympas et agréables, point, pas plus ni moins. Rosalie Bloom de Julien Rapneau, fils de Jean-Paul, en fait partie. Un objet gentil, comme dirait Luc Besson. L'histoire s'appuie sur un postulat intéressant qui aurait pu engendrer un thriller hitchcockien. Vincent Machaud, un brave gars un peu introverti, vit une existence sans heurts dans une petite bourgade provinciale. Sa vie, un brin morose, et c'est un euphémisme, est partagée entre son activité de coiffeur, son chat, son cousin coureur de jupons, sa copine de Paris qu'il ne voit jamais, et surtout sa mère envahissante. Mais un jour, sa vie bascule lorsqu'il rencontre une mystérieuse épicière, Rosalie Bloom. Cette femme le fascine et il décide de la suivre un peu partout. Alors pour son premier long métrage, adaptation d'ailleurs d'une bande dessinée, Rapneau choisit plutôt l'angle de la rom-com sophistiquée, servie par un scénario gigogne plutôt astucieux et d'excellents interprètes qui parviennent à donner une belle épaisseur à leurs personnages de petites gens écrasés par le poids de la vie. Alors notamment hein, Kylian Kojandi, je ne sais pas si on dit comme ça, le héros de Bref, est parfait en grand dudu, sensible et maladroit. À ses côtés, Noémie Lovski incarne une Rosalie Bloom touchante, meurtrie par le temps qui passe. Et puis Anémone, hein, figure maternelle castratrice, compose un personnage délicieux. Alors lorsque le film s'échappe de la comédie douceâtre et consensuelle, hein, programmée pour cartonner, pour se frayer un chemin du côté de l'étude de mœurs mélancoliques, voire même dépressives, Rosalie Bloom gagne en profondeur. Rapneau observe avec une affection profonde des personnages prisonniers de leur mal-être, de leur passé douloureux ou d'un quotidien devenu pénible. Mais bon, globalement, cela reste une sucrerie fraîche et gentille, légèrement rehaussée par un peu d'amertume, à déguster après un bon gros blockbuster bruyant, si vous voyez ce que je veux dire. Le film aurait pu néanmoins plus passer de son twist final artificiel, hein, expliquant de manière trop mécanique 2-3 zones d'ombre qui auraient dû, à mon avis, le rester.
Eh bien, bah, je vais enchaîner avec un film qui est beaucoup moins réussi. C'est Le cœur régulier de Vanja d'Alcantara. Alice a une vie bien rangée, un mari, 2 enfants, autant de voitures, une maison d'architecte ordonnée. Alice est en deuil et ressent le besoin de partir. Elle va alors sur les traces de son frère au Japon, un lieu bordé de falaises abruptes desquelles les suicidaires vont se jeter. Là-bas, elle va faire la connaissance d'un certain Daisuke, policier à la retraite, sorte d'empêcheur de sauter du haut des falaises. Ah, c'est dans cette atmosphère japonaise, parsemée de personnages secondaires, soit fantaisistes, soit mutiques, qu'Alice, interprétée par Isabelle Carré, va retrouver le rythme de son cœur, l'élan de l'existence ou tout ce qu'on peut mettre derrière cette formule. Cette adaptation d'un livre d'Olivier Adam qui aurait gagné sans doute à rester un roman, c'est une adaptation d'un livre d'Olivier Adam. Alors certains verront dans le film de Vanja d'Alcantara une douce évocation du vertige d'exister, d'autres, et j'en suis, y verront un film vain, ennuyeux dont on voit toutes les ficelles. La mise en scène se borne à déplacer Isabelle Carré d'un personnage qu'elle doit rencontrer à un décor qu'elle doit habiter. Le scénario se déroule sans surprise et l'on guette les instants où les êtres et les choses vont s'animer. Il y a quelques personnages fantaisistes qui donnent lieu à des situations qui ne sont que des promesses. Et dans l'ensemble, eh bien, on se borne à admirer le bord de mer et la campagne japonaise, ce qui, au prix du ticket, est un peu excessif. Alors, il est vrai que le sujet est lourd, il s'agit du deuil de l'autre et des retrouvailles avec soi, mais on perd le cœur régulier, l'enjeu cinématographique.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Eh bien, la semaine prochaine.
Eh bien, il y a le nouveau Téchiné, oui, dont je vous parlerai quand on a 17 ans.
Et puis il y a le film de Michael Bay, blockbuster aussi.
Et oui, 13 hours ou 13 personnes.
Avec un petit effort, j'irai peut-être.
Voilà.
Merci Manu.
Et puis nous verrons bien, il n'y aura sans doute pas d'interview. En revanche, la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.